moi c'est André de Mbujimayi au Kassai Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous, merci de suivre Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange et de partage. Félix Tshisekedi demande au ministre sectoriel de suspendre certains mandataires après le contrôle de l'inspection générale des finances. Le chef de l'État a fait cette recommandation lors du 8e conseil des ministres tenu vendredi 18 juin sous sa direction par visioconférence à partir de Bunia dans la province de l'Ituri. Le conseil a abordé plusieurs sujets dont les conclusions du rapport de l'inspection générale des finances dans les entreprises et établissements publics de l'État. Le chef de l'État a demandé aux ministres sectoriels concernés de prendre les mesures conservatoires nécessaires de nature à mettre hors d'état de nuire les auteurs de cette mauvaise gouvernance afin d'éviter l'aggravation de cette situation désastreuse. Comment commentez-vous cette actualité? Et aussi, cette question relance le débat sur la gestion des entreprises du portefeuille de l'État. 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Hippolyte Kapanga assure la mise en onde de ce magazine réalisé par Kiria Ambatia. Quant à moi, Pierrot et la Meji, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Bienvenue à toutes et à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meji.
La recommandation du chef de l'État relance les débats sur la gestion des entreprises du portefeuille de l'État. Comment améliorer la gestion de ces entreprises? La question est au centre de notre échange. Vous êtes nombreux à vouloir commenter ces sujets sur en direct sur les antennes de la fréquence de la paix, mais aussi les débats, nous les tenons sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Et en ligne, nous avons associé Monsieur Ntsingi Poululu. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes député national élu ici à Kinshasa. Et la question de l'amélioration de la gouvernance des entreprises est au centre de notre débat en partant de la recommandation du chef de l'État. D'abord, en tant qu'élu, comment vous réagissez à cette recommandation du président qui estime qu'il faut mettre hors d'état de nuire les mandataires qui sont soupçonnés d'avoir plongé la main dans les trésors publics, dans la gestion des entreprises du portefeuille de l'État?
C'est une décision très salvatrice. Parce que, comme vous le savez, le président de la République, il est le régulateur des institutions. Il n'est pas normal. Quelqu'un qu'on a confié à l'entreprise de l'État se comporte à un tel économique. Et jusqu'à même à paralyser les entreprises. C'est une décision salvatrice que tout le monde doit aimer. D'ailleurs, nous, notre travail de contrôle, quand déjà IGF produit des effets, ça signifie que si c'était des députés, les gens allaient croire que c'est de l'acharnement. Et voilà, l'IGF n'est pas politique, l'IGF est technique, et vous constatez vous-même, quand sera-t-il si le député commence à faire ce travail comme il se doit? Les gens auraient dit chanter de l'acharnement. Et certains PG auraient dû dire non parce que il m'a demandé, et parce que il m'a demandé d'engager son fils, et parce que il a demandé de lui donner, et parce que. Voilà. Ce sont des criminels irrespectables, ce sont des terroristes économiques qu'on respecte et qu'on donne tout crédit possible alors que sont entrés à zéro les entreprises de l'État. C'est visible même. Je vais vous donner un cas. Messieurs les journalistes, très chers auditeurs, regardez la vie de Kinshasa. La vie de Kinshasa, le fleuve Congo arrive de Bandundu jusqu'à Maluku. Et il se dirige où? Au Congo central. Donc le fleuve Congo pouvait prendre Maluku, il partit de Ntsele, il passe Gilles Brasserie, il va, et Kazangoula, il va au Congo central. Mais comme Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il n'a pas un peuple à bénir que le peuple congolais. Le fleuve a contourné, a fait un cercle ouvert dans la ville de Kinshasa. Il vient, Massina, Kingabwa, il passe Barumbu, il passe Gombe, Ngalie, Mangalie, Mamoua, Fula, finalement, il s'ouvre et il va au Congo central. simplement pour donner de l'eau à boire aux Congolais, parce que les fleuves du Congo, c'est de nous tous. Et la ville de Kinshasa seule a 18 rivières de eau douce. Curieusement, dans la ville de Kinshasa, il n'y a pas d'eau. On recourt au forage, en dehors de la sorcellerie. Ça peut être quoi? De vous-même, en dehors de la sorcellerie, ça peut être quoi?
Et là, vous fustigez le manque de vision d'une entreprise publique qui est la Régie des eaux.
Mais voilà! Nous allons y arriver. Qu'est-ce qu'un mandataire? Comment on peut choisir un mandataire? C'est pas un matin on se réveille parce qu'on a un quota politique, parce qu'on a un poids politique, parce qu'on est frère à X, parce qu'on est des tribus de Y, parce qu'on parle même langue avec Z, directement on devient mandataire. Absolument non. Il y a des critériums. Il y a des critériums, monsieur le journaliste. Le pays est tombé trop bas. Regardez la liste des mandataires cités. C'est pratiquement tous les mandataires. Ça ne peut pas être ainsi. On pouvait voir un cas isolé. Mais quand on se retrouve devant les cas général, quand on était élève, on nous disait l'exception. Mais ça, ici, ce n'est pas l'exception, c'est général. Quand vous voyez les tableaux de l'IGF, c'est général.
Et alors, maintenant, il faut des...
Ce sont des bandits économiques.
Alors, je rappelle quand même qu'il y a eu la déclaration d'un mandataire, d'un membre du conseil d'administration. Oui, rappelons quand même qu'il y a eu une réaction d'un membre du conseil d'administration d'une entreprise publique qui estime que le travail de l'IGF crée un climat malsain au sein de ces entreprises. Alors maintenant, le chef de l'État a fait cette recommandation, vous êtes un élu. Quel devrait être alors le mécanisme le plus efficace à mettre en place pour redresser la situation?
Or, ces entreprises existaient et fonctionnaient convenablement. Si vous rentrez un peu en arrière, Onatra, qui est devenu SSTP. Onatra, c'était l'entreprise qui avait... Onatra et SNCC, deux entreprises qui avaient beaucoup d'agents. J'ai Camille, 18 000 agents. SNCC, c'était 9 000 agents. Onatra, 12 000 agents. Il n'y avait pas de problème avant 1990. Il n'y avait aucun problème avant 1990. Mais à l'arrivée des criminels, ce sont des entreprises aujourd'hui qui ont 6 mois d'impayement, on paye les gens des ports, les gens de Kinshasa attendent, on paye les gens de Kinshasa, les gens de l'autre côté attendent, on paye les gens de Lubumbashi, mais c'est quoi? Ça signifie quoi? Ça signifie simplement les objectifs assignés doivent être accomplis par des personnes responsables. Et de là, dis-moi, comment on arrive à engager un mandataire? C'est par des quotas politiques. Or, nous, quand nous étudions, on nous disait ceci. Dans un bulletin d'un élève, il y a ce qu'on appelle conduite. Hormis les pourcentages obtenus par l'élève, mais il y a l'option, la rubrique conduite. Il faut en tenir compte. Arriver à l'université, parce que l'université, même les falsificateurs sont arrivés à l'université, on a aboli la rubrique conduite. Il n'y en a pas dans les relevés des cotes. On ne saura pas suivre qui est ce monsieur. Comment il se comporte? Quelle est son assiduité dans les cours? Quel est son comportement pendant que les enseignants enseignaient? On a tout élagué parce que c'est un monde où les médiocres font rage, les médiocres deviennent des décideurs.
Et aujourd'hui, alors, avec le problème de partage de quotas politiques, les entreprises se retrouvent ainsi partagées entre le regroupement politique et la question de la moralité ne se pose plus, et c'est ça la conséquence dans la gestion de nos entreprises.
La première des choses, un comité de gestion est mis en place en fonction d'une notion qu'on appelle les FOFEM. Quand nous faisions le management des entreprises, la notion la plus efficace des managers, parce que le comité de gestion, ce sont des managers, mettons-nous d'accord. Un comité de gestion, ce sont des managers. Et un manager, pour gérer une entreprise, l'élément le plus efficace s'appelle FOFM. F-O-F-M. FOFM. Ça signifie quoi? La force, le manager, le comité de gestion doit avoir la capacité de résoudre les problèmes, de savoir que l'entreprise a des forces. Quelle est la force qu'a l'entreprise? Quelles sont les opportunités que dispose l'entreprise? Le troisième F, quelle est la faiblesse que présente notre entreprise et les M, quelles sont les menaces que subit notre entreprise. Mais un comité de gestion qui n'a pas cette notion. Maintenant, la deuxième élément pour arriver à cela, il faut que les mandataires présentent les éléments ci-après. Un, il doit sortir d'une grande école, d'une très grande école, reconnue en la matière. Et il était parmi le meilleur, les 10 meilleurs, les 10 premiers. Ça, c'est un devoir obligatoire pour un manager, pour un gestionnaire de l'entreprise, de l'État, pour un ministère. Deux, il doit avoir une vision claire et nette, bien définie de cette entreprise-là qu'il veut gérer. Vous comprenez? Et trois, il doit avoir l'amour du peuple. Il n'est pas normal. Aujourd'hui, on nomme quelqu'un dans des entreprises techniques, mais qui ne l'est pas.
Ah, ça dit que... oui, c'est important. Vous l'avez dit, il faut vraiment un travail de fond en comble hein, sur la question d'abord des nominations des mandataires. On va revenir à vous. Permettez qu'on écoute les auditeurs qui sont nombreux hein, au niveau de notre standard qui voudraient aussi intervenir. Il y en a encore nombreux sur la page Facebook. Vous l'avez dit, il faut que les managers soient, les mandataires soient ressortissants d'une grande école reconnus, qu'il ait été le meilleur de sa promotion. Il doit avoir une vision claire et nette de l'entreprise qu'il est appelé à diriger. Il doit travailler au nom du peuple hein, et on se rend compte aujourd'hui avec cette dénonciation que la plupart des personnes qui animent les entreprises du portefeuille de l'État ne ressortent pas dans cette vision. C'est ce qui pose des problèmes aujourd'hui. Alors, on va écouter les auditeurs hein, qui sont en ligne. Franck nous appelle de Vienne et Augustin est en Bandaka. Franck, merci de nous avoir rejoint. Bonjour.
Bonjour, notre ami Pierrot. Bonjour à l'invité, l'honorable Poulou. Bonjour à vos collègues au studio et à tous les amis congolais avec qui nous allons nous échanger.
On vous écoute, Franck.
Oui, merci beaucoup pour la confiance et l'expression. Ma petite contribution va porter sur trois brefs commentaires. Le premier, c'est je vais commenter un peu l'objection du chef de l'État. Au deuxième, ça sera un commentaire par rapport à ce que nous citoyens constatons. Et le troisième et le dernier commentaire serait quelque chose en guise de recommandation et suggestion. Par rapport au premier, je crois qu'il y a lieu de rappeler que dans chaque État qui se respecte, le chef d'État, comme premier citoyen, porte en lui une série de casquettes par rapport à la constitution de son pays. Ainsi, lors de ses sorties médiatiques, devant les caméras et divers micros de la presse, ils ne peuvent pas facilement s'en débarrasser. Il est le citoyen le mieux informé de nous tous. Ainsi, s'il faut repartir de cet aspect, ce qu'il prononce ne peut s'appuyer que sur les faits vrais et vérifiables à plusieurs niveaux. Et au regard des articles 69, 79 et aussi 81 du point 4 à 6 de notre Constitution, il y a lieu de rappeler que le chef d'État dispose de certaines manœuvres juridiques par rapport aux textes légaux en vigueur afin d'éviter cette situation désastreuse selon la teneur de votre posting sur notre page Facebook. Et mon ami Pierrot, si nous devons regarder de l'intérieur comment ça fonctionne chez nous depuis des décennies, on doit reconnaître qu'il y a l'existence manifeste de beaucoup de pratiques nuisibles que le chef d'État lui-même venait de qualifier de mafia. Et aucun secteur de la vie nationale n'est vraiment épargné. Et il faut reconnaître que la société congolaise, son mode de fonctionnement est vraiment une gangrène. D'usage excessif d'antivaleurs, des recours aux interférences politiciennes, du clientélisme, du favoritisme, du communautarisme, parfois un vœu exagéré, du culte des personnalités, et ainsi de suite. Et souvent, quand nous intervenons, moi personnellement, quand j'interviens sur vos ondes depuis plus d'une décennie, comme vous le savez, je ne cesse de revenir sur ce genre d'interpellation. Et parfois, nous risquons nos vies, notre sécurité, lors de nos séjours, par rapport à ce souci que nous portons à nous pour le bien de tous les Congolais. Et au troisième commentaire, ce sont des recommandations. Je crois que chez nous, le problème qui se pose là, c'est le problème de la conception politique. Donc, par rapport à tout ce qui se fait, on aime tout politiser, donc on politise même des nominations, même tout est politisé. Et dans un pays où la politique a le primat sur tout, et pas n'importe quelle politique, une politique de famille, une politique du clientélisme, une politique de faveur, une politique aveugle, ça ne peut pas vraiment aller. Donc on doit d'abord aussi tenir compte des mérites, des critères, des compétences et aussi de la moralité. Parce que tel que ça se fait chez nous, on nous avait fait croire qu'avec l'Union sacrée, il y aura changement, mais on se rend compte que jusque-là, le changement tant attendu n'arrive pas encore. Il faut que les citoyens congolais s'interpellent, parce que les citoyens congolais ne peuvent pas...
Alors, Franck, s'il vous plaît, est-ce que vous estimez, le chef de l'État, si vous suivez dans sa causerie avec les forces vives à Bounia, il a dit, ça fait des décennies que le mal est ancré. Pensez-vous aujourd'hui que les changements va être automatique, où on se réveille le matin, tous les mandataires, tous les Congolais, tous les politiciens changent automatiquement? Lui-même a dit, ne vous attendez pas que ça change automatiquement parce que c'est déjà ancré, il faut prendre du temps pour que la mentalité des gens change, même dans la manière de gérer. Est-ce que ça peut changer de manière du jour au lendemain automatiquement?
Oui, mon ami Pierrot, je comprends là où vous voulez m'amener, mais je crois que quand vous-même, le chef d'État, vous savez que tel a été la partie de quand vous prenez une formation d'un compétent, d'un malhonnête, vous les placez à des postes de responsabilité. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de ces gens-là? C'est là aussi la question du casting au niveau de ces gens qu'on est en train de nommer. Je ne dis pas que le changement c'est automatique, mais quand par exemple vous prenez une formation d'un malhonnête, donc qui prépare de la magouille, vous les reconduisez à des postes de commandement. Mais qu'est-ce que vous attendez de ces gens-là? Si ce sont les mêmes qui ont travaillé avec Mobutu, ils se sont retrouvés chez Kabila. Et vous, maintenant, vous le reconduisez encore à ce même poste-là. Qu'est-ce qu'on peut attendre de... Moi, je crois qu'au niveau de la présidence, les présidents devaient lui-même aussi s'entourer des hommes compétents, capables, qui peuvent l'aider à faire du bon casting. Parce que personnellement, je trouve qu'il peut avoir ses bonnes intentions, il a le souci de faire changer les choses, mais avec qui? Le président Kabila l'avait bien dit, il lui manquait 8 hommes, 8 personnes. Mais je me demande si l'actuel chef d'État s'est déjà entouré de ces 8 que le président Kabila n'avait pas pu trouver. Et puis, j'ai réagi un peu rapidement par rapport à l'objection de l'honorable député. Il dit qu'il faut trouver des gens qui sont intelligents, qui sortent de bonnes écoles. Je le comprends. Je le comprends personnellement. Il faut tout faire la promotion de la méritocratie. Mais je peux lui dire que nous avons eu des présidents d'Assemblée nationale, professeurs des universités. Nous avons eu des ministres, professeurs des universités. Moi, personnellement, je crois que les diplômes que nous avons chez la République démocratique du Congo, l'équipe honorifique que nous avons, docteur en ceci, ingénieur, licencié avec master, tant qu'on n'a pas de la volonté politique.
Merci beaucoup Franck. Vous avez insisté sur la question de la volonté politique, hein. C'est ce que vous avez dit. Vous avez objecté ce que disait notre invité tout à l'heure, Monsieur Mustingi Pouloulou, par rapport à la question de la méritocratie. Vous avez dit qu'il y a des gens qui ont terminé dans des grandes écoles qui ont géré. Pourquoi on a des problèmes? Alors on va écouter Augustin qui est en Bandaka. Augustin, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Augustin, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Augustin.
Je salue d'abord les auditeurs de Radio Côté de partout, sur le territoire de la République démocratique du Congo. Je voulais un peu rectifier, je réside là-bas dans la ville de Kolwezi.
Ah, Augustin, vous êtes à Kolwezi, oui, voilà, merci beaucoup. Merci, on vous écoute alors, oui.
Ah oui, je rejoins l'idée de notre invité qui, selon laquelle moi je trouve que les autorités politiques aujourd'hui, ceux qui nous dirigent, doivent un peu avoir une politique consciente dans la façon de gérer notre pays. Je vois les gens, la plupart des gens qu'on nomme pour être mandataires des sociétés, de l'État, la plupart apprend encore le travail. On choisit les gens selon leurs différentes couleurs politiques, on choisit les gens selon leurs affinités et je trouve que ça ne va pas avancer. Ça ne va pas faire avancer le pays. Notre président de la République, M. Félix Tshisekedi, il a des bons discours, il a des bonnes initiatives, on se trouve. Mais Le problème réside dans l'applicabilité de ce que le président a chaque fois comme discours. C'est beau à entendre quand il dit on va changer le pays, on va faire... Il y a eu beaucoup de gens qui ont géré ce pays et plus de 20 ans, il faut changer beaucoup de... Il faut changer la mentalité des gens et ça va prendre du temps. Le problème de changer la mentalité, genre, je vois pas que ça va prendre beaucoup de temps, moi. Je vois qu'il faut que tout le monde soit conscient. D'abord, ceux qui nous dirigent, eux, doivent être conscients pour eux que le pays avance et que tout ce qui est dit soit un peu fait. Je trouve un peu que c'est dans l'idée...
Voilà, merci, merci beaucoup Augustin, vous êtes à Colésie, mais rappelons quand même que le chef a fait une recommandation au ministre. Il revient au ministre sectoriel selon le rapport de l'Institut général de finances de pouvoir dire oui, voilà, quels sont le mandataires qui sont accusés, qui ont des problèmes, et comme ça, on peut pouvoir les punir, comme ça a été dit. Alors, nous revenons à vous directement, monsieur Nsingi Poulou, vous avez suivi, hein, notre ami Franck dit tout à l'heure de Vienne disait que oui, mais les hommes compétents, on ne les a jamais manqués dans ces pays. Vous êtes députés, on a vu les assemblées dirigées par des grands professeurs, on a vu des personnes qui ont fait des grandes écoles qui sont dans les entreprises du portefeuille de l'État, mais ça ne marche pas toujours. Alors, les diagnostics devaient se situer à quel niveau, M. Nsingi Poulou?
Non, c'est-à-dire que je comprends les intervenants, je les félicite. Le problème des intellectuels, il ne faut pas confondre un porteur de diplôme et un intellectuel. Un intellectuel a deux choses. Il a la matière, la compétence dans un domaine bien défini et il a la bonne modalité, la bonne manière. Ça, c'est un élément important que beaucoup de porteurs de diplômes n'en ont pas. Mm-hmm. En tout cas, je veux qu'on se mette d'accord. On parle d'un intellectuel, c'est celui qui est intelligent dans un domaine, qui maîtrise un domaine bien déterminé et qui a la bonne manière. Tandis que un porteur de diplôme, c'est quelqu'un qui peut avoir des empiriques, des réponses empiriques, mais qui n'a pas de l'éthique. Mm-hmm. Vous avez suivi à l'époque un professeur, je me réserve de citer son nom. Ici, il était politicien, il avait posé une action, on l'a retiré des cours aux États-Unis. je me réserve de citer les noms. Donc, vous devez savoir ce que c'est un intellectuel. Le problème que nous avons ici ne relève pas des intellectuels. Mmh. Un intellectuel, l'élément le plus important qu'on retrouve chez un intellectuel, c'est ce qu'on appelle la vertu. La vertu, c'est quoi? C'est le pouvoir qui commande une personne à faire du bien, même au détriment de son intérêt. Et ça, c'est l'un des éléments clés d'un intellectuel. Pourquoi? Parce que la science n'a pour ami que la vérité. Mm-hmm. Quand quelqu'un défend un camp politique, vous êtes mandateur, mais vous prenez l'argent des frais de fonctionnement pour servir votre parti politique. L'argent qui doit servir le fonctionnement de l'entreprise pour donner du sourire au peuple congolais, vous donnez ça à la coordination de votre parti politique. Il n'a pas l'éthique. Mmh. C'est pas un citoyen. Deuxième chose, j'insiste, quand on nomme les mandataires, on ne tient pas compte de les éléments que je viens d'évoquer, la notion de faux femme. Quand quelqu'un parle, vous ne sentirez en rien lui qu'il maîtrise ce qu'il dit. Moi, je suis ingénieur physicien. Moi, j'ai étudié à l'école de la SNEL. D'abord au secondaire. Je suis allé à l'université. J'ai fait l'électricité. Je suis allé à l'IPEN. J'ai fait la physique d'électricité. J'ai travaillé à la SNEL. Du bas, j'ai été recruté comme coupeur rétablisseur. Donc, classifié. Jusqu'à monter à devenir cadre. Qu'est-ce que j'ai observé à la SNEL? Je prends les cas. Un cas réel, la SNEL. Un comité de gestion qui sort, c'est lui qui place, tous les directeurs qui tournaient autour des DG sortants sont mis au garage. Et ces gens-là n'ont pas d'affectation et deviennent un obstacle pour les nouveaux mandataires. Okay. Et ce sont des clics de directeurs. C'est depuis
Il y a même des dirigeants, des directeurs qui étaient méchants envers un directeur qui devient directeur, chef de directeur général, DG. Ce monsieur, il sort de l'entreprise pour aller même administrateur dans une entreprise pourvu qu'il quitte qu'il ait ce qu'on appelle mise à la disposition.
Mm-hmm.
C'est pour seulement fuir parce qu'ils ont causé seulement du tort à un monsieur et ce monsieur est devenu DG. Je vous prends le cas de DG qui est en fonction. Ce DG était mis en prison. Il était poursuivi par le DG sortant. Quel est le sort de tous ceux qui cohabitaient autour du DG sortant par rapport au DG entrant et qu'on a malmené? Vous comprenez ce que ça donne, hein?
Mm-hmm.
Ça, c'est une maladie de
voilà.
toutes et ça, les ça... entreprises de la République.
Il y a une question de moralité, comme vous l'avez dit, c'est vraiment intéressant, mais nous allons revenir avec vous tout à l'heure. On va écouter encore deux auditeurs, revenir aussi sur la question de la responsabilité de la justice, parce que vous avez toujours milité pour cela. Il y a la dénonciation et nous espérons nous allons jeter un coup d'œil en ce qui concerne l'accompagnement de la justice dans le travail que l'IGF fait. 081-890-4969, 081-890-4969, c'est le numéro pour intervenir en direct.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport à
ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence de vous.
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas de travail.
Le intouchable dans ces pays n'existe pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Et vous pouvez également réécouter Parole aux auditeurs sur www.radiocapi.net. Alors, Sylvain, merci de nous avoir rejoints dans cet échange. Bonjour, Sylvain.
Bonjour, cher Pierrot. Je voudrais aussi saluer tous les staffs de la Radio Capi, mais aussi l'invité du jour.
Merci beaucoup. Alors, vous avez suivi ces débats, ces dénonciations du rapport de l'IGF, des mandataires véreux qui doivent être sanctionnés. Alors, cela relance les débats plus sur la question de la gouvernance des entreprises du portefeuille de l'État. Quel est votre point de vue?
Merci. Nous avons toujours dit que le management est un art de bien faire. Lorsque nous voyons dans l'histoire de l'évolution des entreprises de notre pays, et d'ailleurs ici, c'est depuis l'accession de la RDC à l'indépendance, soit à la souveraineté, des personnes qui ont eu la responsabilité d'assurer la gouvernance de ces entreprises n'ont jamais répondu à la feuille de route de celle-ci, dans le sens où les objectifs que devraient avoir ces entreprises dans le sens de résoudre des problèmes sociaux, ça veut dire des problèmes de population, n'ont jamais eu la réponse attendue. Et moi, je voudrais être vraiment simpliste pour que nous ne puissions pas dire que on est en train de faire la chasse à l'homme, la chasse à l'homme. L'inspection générale des finances, avec la gouvernance de son excellence, monsieur le président de la République actuel, monsieur Antoine Félix Tshisekedi, est en train de faire un très grand travail de diagnostic financier de chaque entreprise par rapport à la mission lui conférée par la République. Et lorsque vous voyez le travail que fait l'IGF, vous rendez compte que dans la plupart des cas soulevés par cette structure, je cite l'IGF, la mission n'est pas exercée. Et la question qui se pose par tout observateur averti, c'est que font les financements, ou soit l'argent, d'une manière vulgaire, disons ça ainsi, que les trésors publics sortent pour la gestion, par exemple, de l'OCPT, pour la gestion de la SONAS, je ne donne que des exemples, pour la gestion des Congo Airways, eh bien, on se rend compte que les fonds décaissés par les trésors publics n'est pas orienté dans la réalisation des objectifs de ces entreprises. Et donc, il est bien évident que les responsables concernés, ici je cite le président de la République, qui est le garant de tout, mais aussi le premier ministre, qui est le patron du gouvernement, devrait chaque fois se rendre compte de ce qui s'est fait. Puisque moi j'ai toujours pensé, il faut mettre en place la gestion axée sur les résultats. Le peuple attend les transports. Est-ce que les services publics chargés des transports donnent au peuple congolais les transports? Le peuple a besoin de la santé. Est-ce que le ministère de la Santé, effectivement, donne aux Congolais l'accès aux soins de santé? Voilà les problèmes qui se posent chez nous. Et M. Pierrot, moi, je peux vous les garantir, avec toute humilité, que s'il vous plaît, des gens qui ont pris la tête des entreprises publiques de l'État n'ont aucune notion apparemment de la gouvernance des entreprises. Et donc, il faut renvoyer les gens dans l'école de management pour qu'ils apprennent comment mener les entreprises. Puisque si vous prenez d'autres nations comme la France et même des pays proches avec nous, le Rwanda ici, lorsqu'on crée une entreprise aujourd'hui du portefeuille de l'État, on voit la production. Lorsque vous avez une entreprise, par exemple, qui est chargée de l'habitat, mais notre population se retrouve dans des logements indécents, donc dans des logements pratiquement qui n'existent pas. Ça veut dire que l'argent qui décaisse l'État est détourné par des individus.
Voilà. Là, merci beaucoup, Sylvain. Cela relance vraiment le débat sur le COPIREP, le comité de pilotage des réformes des entreprises publiques qui a été mis en place depuis plusieurs, une décennie, qui a été dirigé en son temps par le professeur Sylvestre Ilunga Ilunkamba, qui était le récent au premier ministre, et beaucoup de gens avaient déjà estimé que la réforme des entreprises avait échoué avec le COPIREP. C'est ce que vous dites.
Je voudrais dire quelque chose, M. Pierrot.
Allez-y, si rapidement, rapidement.
30 secondes.
Rapidement, oui.
Ce qu'il faut noter à travers cette émission, d'ailleurs pour laquelle je félicite la Radio Capi, en réalité, il fallait qu'on commence à nous inviter les responsables des services concernés pour qu'ils disent aux Congolais ce qu'ils font, et si on se rend compte qu'ils ne font rien, et même de vouloir aller présenter leur démission au Premier ministre afin qu'ils puissent dégager et qu'on laisse place à des personnes.
Et ça, c'est intéressant. Votre proposition, Sylvain, elle est vraiment très intéressante d'avoir le mandataire. Il y avait des moments quand même où on pouvait avoir parole aux auditeurs avec certains DG, certains responsables des entreprises, mais qui n'est pas aussi plus facile de les avoir tout le temps. Alors, on va écouter Hippo qui nous appelle des Kamana dans la province de Lomami. Hippo, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Radio Capi, bonjour à tous les auditeurs. Je salue le travail qui est en train d'abattre le secteur, l'inspection générale de finances. Cette institution qu'on entendait souvent dans d'autres pays qui n'avait jamais existé chez nous, le courage et la détermination du chef de l'État dans cette guerre contre les risques qui d'ailleurs s'était déjà érigé à mode de gestion depuis des décennies, faute d'un leadership clair, efficace et d'une réelle volonté politique, et qui d'ailleurs est à la base d'importants manques à gagner pour notre trésor public, d'une part. D'autre part, comme dans toutes les révolutions, bien que saluée par les contribuables congolais, cette guerre ne sera pas au chef de l'État que des amis, mais je suis des ennemis. Et notons le fait que cette mesure ne soit qu'une première de la série, comme il l'a d'ailleurs si bien indiqué à la société civile de Litovie. Le mal est si profond qu'il n'épargne aucun secteur de la vie nationale. Et en livrant cette guerre, une guerre comme celle-là, le chef aura, à mon humble avis, freiné le chemin, remporté une bataille et jeté les jalons d'une bonne moralité dans la gestion de la res publica en son temps, mais n'aura surtout pas à gagner cette guerre qui, elle, s'inscrit dans les temps à travers ses successeurs qui viendront après lui.
Voilà, c'est quelque chose qui doit s'inscrire dans la durée. Alors, Tsingy Poulou, le député national, vous avez suivi les auditeurs, hein. Je me rappelle une fois, l'IGF aussi, hein. D'ailleurs, on a eu aussi une émission par l'usine dans laquelle on évoquait la lenteur de la justice dans la question de la gestion de tout ça. Et vous êtes toujours battu pour la question de la justice. Ça doit être un élément clé pour accompagner ces travaux, non seulement des dénonciations, non seulement des suspensions, mais aussi pour qu'on ait une justice qui permet quand même au pays de pouvoir sanctionner ceux qui ont mal géré les entreprises.
Oui, vous savez, j'ai suivi les interventions des uns des autres, mais je les félicite encore. Quand on parle que la justice, la lenteur de la justice, non, la justice n'est pas lente. La justice se certifie d'abord, doit d'abord certifier les accusations, doit faire des enquêtes, et après il va se saisir du dossier. Vous devez savoir la vision actuelle du chef de l'État. Le chef de l'État vous a amené deux choses. L'état des droits, c'est-à-dire la justice, parce que l'état des droits, c'est l'état qui signifie la sanction. Deux, il vous a amené les peuples d'abord. Les peuples d'abord signifient les sociales. Les sociales. Il faut que chaque personne se rende compte de la vision du chef de l'État. Bon, regardez, comment est composée une entreprise publique? Nous avons un PCA, président du conseil d'administration. Il vient d'où? Celui-là est le porteur de la vision politique. De la vision politique du gouvernement. Il est là pour ça. Il a suivi du DG. Le DG, quant à lui, c'est l'exécutant de cette vision politique. Et il y a un DG adjoint. Mais qu'est-ce que vous allez remarquer? Quand les PCA y vont, ils amènent quoi? Il a quelle vision entre ses mains? Il n'a rien. Je vais vous donner un cas précis encore. Je faisais des émissions à l'époque sur Radio Capé, sur l'électricité, vous vous souvenez? On m'invite à la présidence de la République pour coucher mes idées sur un papier. Chose faite. Et là, je cite le conseiller principal politique du chef de l'État, à l'époque, Joseph Kabila, il s'appelait Mbayo Kifuntwe. Monsieur Mbayo Kifuntwe me dit, amène-moi ça dans un format dur. Je lui ai donné. On donne au PCA de la SNEL. Mais il faut voir comment était l'application. Malheureusement, on leur a cité le nom que cette vision vient d'un fils maison. Et je suis devenu poursuivable au sein de la SNEL, pour chasser même. Vous comprenez la médiocrité, hein? Vous comprenez la médiocrité. Donc, le gouvernement, sa vision doit refléter la vision du chef de l'État. Qu'il se rappelle, le premier ministre, qu'il se rappelle, que dit l'article 92 de la Constitution? Le premier ministre élabore le programme du gouvernement en concertation avec le président de la République. Or, le programme du chef de l'État est dûment connu. C'est l'état des droits et le peuple d'abord qui signifie le social. Je ne sais pas s'il y a un problème d'interprétation. Le chef de l'État est clair. Peut-être qu'il ne m'a pas encore comme porte-parole ou conseiller. Il est clair, sa vision est claire. L'état des droits signifie que tout le monde doit respecter la loi. Vis de ton salaire. Vie de ton salaire. Mais allez voir ce que c'est les frais de fonctionnement. Qu'est-ce que signifie frais de fonctionnement? Non, je ne peux pas tout étaler ici. Mais je vous dis, faisons confiance au chef de l'État. Partout où vous êtes, dénoncez les mal. Ils seront découragés. La justice va faire son travail. On vous dit que l'IGF est en train de faire un travail un peu de manière précipitée ou pas bonne. Non. Le plus grand problème, c'est quoi? Il y a tellement un grand nombre de voleurs, j'assume les mots, je pèse mes mots, un grand nombre de voleurs. Et lorsqu'on les menace tous au même moment, ils sont mécontents parce qu'ils ont des alliés. Je vous donne un cas. Lorsqu'on voulait lever les immunités d'un passé premier ministre, mais vous savez que le Sénat est en majorité composée des anciens gestionnaires. Ils se sont dit, si on enlève pour lui, mais nous autres aussi, ça viendra. On ne peut pas ouvrir une boîte à Pandore. C'est-à-dire, tous ceux qui se disent mécontents contre l'IGF, si ce n'est pas son fils, c'est son allié.
Voilà. Il y a un membre, il y a un membre d'un conseil d'administration de l'entreprise qui a dit que le travail de l'IGF hein, risque sème un climat malsain au sein des entreprises.
il doit se taire d'abord. Il doit se taire. Quand on dit l'état de droit, je vous ai dit autrefois, pour gérer, il y a des mécanismes empiriques qu'on a créés dans le, ce qu'on appelle management. Gérer, on gère avec trois éléments. C'est quand vous commandez, le verbe est commander, le verbe est contrôler et le verbe est corriger. Les gens sont nommés mandataires. Vous ne voulez pas qu'ils soient contrôlés? On doit les contrôler par rapport à quoi?
Mm-hmm.
Au programme qu'on leur a donné. Mais ils n'arrivent pas à donner satisfaction. On doit les laisser comme ça.
Mm-hmm.
Et quand
voilà.
Maintenant on contrôle, on trouve qu'il y a eu du vol, il y a eu des détournements. On sanctionne, vous dites, ah non, l'IGF est en train de mal faire le travail.
Voilà, ça dit qu'il dit, faut, comme vous l'avez dit,
la loi,
il faut.
La et... loi, excusez-moi Pierrot,
oui. Mm-hmm.
La loi ne libère pas l'homme du péché. Retenez ça très bien. La loi ne libère pas l'homme du péché. Tout voleur n'aime pas qu'on l'attrape, qu'on l'acquise. Et puisque l'appétit vient en mangeant, ils sont habitués comme ça. Ils sont habitués comme ça.
Voilà. Et il y a notre ami tout à l'heure, Augustin, qui, bon, passeport, qui ça c'est Hippo plutôt, qui disait tout à l'heure qu'il faudrait vraiment tout un accompagnement de tout le monde. Et c'est pourquoi nous sommes avec vous en tant qu'élus dans cette émission. On va écouter ici à Kinshasa, Espérant, et Marie-Paul qui est à Kisangani. Espérant, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Espérant, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, bonjour, monsieur Pierrot.
On vous écoute, Espérant.
Oui, nous saluons le chef de l'État pour son courage de m'avoir pas tardé à interpeller la conscience des ministres sectoriels afin de passer aux actes avant que la situation s'aggrave selon lui. Étant donné que la constitution du pays lui confie le statut de garant de la nation et de bon fonctionnement des institutions, il doit souvent agir conformément à la constitution dans le respect total de son pouvoir. Au cas où il constate qu'il y a du désordre au sein des institutions du pays. Par ailleurs, nous lui suggérons de suivre cette situation de plus près et de son implication personnelle. Car il peut y avoir encore la pratique d'un système mafieux et des magouilles qu'il a dénoncé la fois dernière dans les forces armées. Par les ministres concernés en protégeant certains mandataires présumés auteurs des actes de la gestion de la chose publique de l'État. C'est pourquoi nous lui demandons d'être toujours vigilant, sinon ça peut s'aggraver et le peuple qui paye, qui contribue, qui doit vraiment bénéficier de la part des autorités ne gagne rien.
Il gagne
du
rien.
Tout.
Alors que le peuple paye l'impôt, paye les taxes. Vous insistez beaucoup sur le fait que le chef de l'État devra suivre lui-même cela. Pour que la situation ne puisse pas empirer dans les entreprises, hein, parce que ce sont ces entreprises, en principe, qui sont le moteur même du pays. Merci beaucoup, Espérant. Vous étiez ici à Kinshasa. Marie-Paul est à Kisangani. Marie-Paul, vous êtes avec nous. Bonjour. Voilà, là, on a des petits soucis. Avec Marie-Paul de Kisangani. Alors, il y a beaucoup de commentaires hein, sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Je crois que c'est bien. Maintenant, on peut avoir Marie-Paul qui est à Kisangani. Bonjour, Marie-Paul.
Bonjour, monsieur le journaliste. Et bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Alors, on vous écoute, Marie-Paul.
Oui, monsieur le journaliste, la demande du président Félix au ministre lors du 8e conseil des ministres est-il la palissade aux prérogatives de l'IGF? Parce que vous savez que l'IGF, après avoir effectué ses contrôles, et cette institution doit automatiquement déférer tous les présumés détournés en justice. Alors, le président, en revenant sur ces prérogatives-là, en disant au ministre, c'est pour qu'il confirme sa politique de l'état des droits. Il veut réaffirmer à ces gens-là que, quels que soient les rangs qu'on occupe dans les pays, aussitôt qu'on est pris dans une situation de détournement, on sera judiciable devant les cours des tribunaux. Alors, de mon point de vue, je pense que Et le président aussi a exprimé quand même ce qu'on a vécu ici. Et le refus du Sénat, le refus des institutions de pouvoir lever les immunités. Alors, le président n'a pas voulu, comme il a toujours rappelé, faire des injonctions ou donner des injonctions à ses pouvoirs judiciaires, mais il a trouvé l'occasion devant les ministres et devant les membres du gouvernement pour lui démontrer les ras-le-bol qu'il avait par rapport à ses comportements des institutions, parce que comme vous le savez bien, les institutions doivent coopérer, et c'est la coopération entre les institutions qui permet que les pays avancent. Mais dans notre pays, il y a cette histoire-là de manque de coopération, ce qui laisse à désirer, parce que dans ce qui se passe dans ces histoires que nous avons vécues dernièrement ici, de lever des immunités, on se rend compte qu'il y a des gens qui se couvrent par rapport à leur positionnement politique, par rapport au poste qu'ils occupent, pour qu'ils ne soient pas judiciables. Et c'est un comportement à éviter, parce que la Constitution de la République dit que tout le monde est devant, tout le monde est égal devant la loi, et que tous les Congolais sont justiciables, et tous ceux-là qui commettent des préjudices, ils doivent répondre de leurs préjudices. Et c'est de cette façon que le président a voulu les réaffirmer. Et je pense que nous devons nous mettre dans la logique, parce que quand même c'est ahurissant, c'est vraiment horrible dans les pays, et que chaque jour, et moi j'ai horreur, je suis de la formation des relations internationales, j'ai horreur de l'image que nous donnons au pays. Si dans notre pays, tous les débats c'est autour des détournements, c'est autour des détournements, des vols d'argent, et nous sommes en train un peu de discréditer la vision du pays ou la renommée du pays sur la scène internationale. C'est ce qui est horrible, c'est ahurissant. Et nous le disons, c'est parce que nous voulons que les choses changent. Et ce n'est pas une bonne chose que dans un pays, on ne fait que chaque jour parler des détournements, parler de mégestion, parler de tout ce que les personnels qui sont investis des pouvoirs publics de l'État sont en train de faire. Ce n'est pas une bonne chose. Et nous le disons, et ils doivent comprendre la logique du président aujourd'hui pour que nous puissions quand même effréner cette situation. Et la situation est horrible. Je n'ai jamais vu dans les pays où les gens détournent. Et puis, dans ces détournements, il manque des millions. Et ces millions devraient nous construire. Nous avons assez de problèmes. Et si on pouvait bâtir les entreprises, bâtir les maisons, construire les routes avec ces millions-là. Mais les pays devraient avoir un bel élan, comme nous le disons dans notre hymne national. Mais nous sommes en train plutôt de régresser. C'est une situation qui doit interpeller tout le monde. Ce n'est pas seulement le président qui est un peu... qui exprime son ras-le-bol.
D'ailleurs, rappelons quand même. Rappelons.
Merci beaucoup, Marie-Paul. Merci. Tout ce que les politiques sont en train de faire, les autorités sont en train de faire dans ces pays.
Voilà, merci beaucoup, Marie-Paul. On a suivi, Marie-Paul, votre écrit, votre message. Mais rappelons quand même le fait que le chef de l'État demande au ministre de pouvoir le faire. C'est une façon aussi de leur accorder leur responsabilité, de leur dire, vous êtes responsable de votre secteur, voilà ce que vous devez faire. Exactement. Et pour éviter aussi que, mais c'est aussi dans le respect, n'est-ce pas, de la loi, de chaque ce que chacun doit faire. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a notre ami Sébastien qui nous écrit des Congolos dans la province de Lualaba, je crois très bien, je crois peut-être Congolo, c'est dans les Lualaba encore. Voilà, il dit ceci, on dit qu'il y a un poisson pourri, commence à pourrir par la tête. La décision prise par le chef de l'État est à saluer, car notre pays ne doit pas continuer à briller dans la mégestion, la corruption, la mauvaise gouvernance, ainsi que le détournement des deniers publics. Et il souhaite que tout le monde puisse accompagner ce qui a été proposé par le chef de l'État. Il y a notre ami Ayoub Ernest Mutanda. L'acte du chef de l'État est louable, prouve sa détermination à combattre la corruption. Nous saluons aussi le travail qu'effectue l'inspection générale des finances. Cependant, depuis que l'IGF a commencé à faire ce rapport, tous les mandataires concernés n'ont jamais été inquiétés. Disons d'abord que le rapport de l'IGF sur les mandataires a été déposé au niveau du gouvernement. Il revient maintenant à la suite avec les ministres sectoriels, comme le chef de l'État l'a demandé, de pouvoir prendre des mesures. Et la justice pourra venir après. Dany Makambo dit ceci, mieux vaut tard que jamais, nous remercions et nous encourageons la décision du chef de l'État contre les présumés mauvais gestionnaires. Nous sollicitons qu'il ne se limite pas seulement aux entreprises mandataires citées par l'IGF, mais on doit aller aussi dans la plupart des entreprises, presque dans la situation demande un audit généralisé, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Avant peut-être qu'on écoute le deux derniers ou le dernier auditeur, on revient à vous rapidement. Je crois qu'on a encore un auditeur en ligne avant de pouvoir écouter notre invité. Et voilà. Et en attendant, oui, nous avons une, un auditeur en ligne avant de pouvoir écouter notre invité.
Oui, c'est Kalo Kalonjan Boujimaï.
Oui, oui, Kalo, merci de nous avoir rejoints. On a vu votre commentaire sur la page Facebook, Kalo. On vous écoute.
Effectivement, la demande du président au ministère sectoriel de prendre des mesures conservatoires à l'endroit du mandataire public est un pas. Il est alloué, d'autant plus que ce qui détruit ce pays, c'est la mauvaise gouvernance, corruption, détournement orchestré par les gestionnaires de la chose publique. Mais plusieurs inquiétudes sont à soulever, monsieur. Comment il peut demander des mesures conservatoires à la suite du rapport de l'IGF? Or, nous connaissons que quand il y a un rapport de tous ces temps ici, il y a encore une copie qu'on doit réserver aussi à la justice. Mais le faire, c'est comme si nous sommes dans une double vitesse. Je me pose la question, pourquoi certains rapports de l'IGF sont envoyés à la justice? Pour certains, non, maintenant c'est les mesures conservatoires.
Non, mais Kalo, il faut peut-être, il faut peut-être expliquer clairement, quand l'IGF fait son rapport, hein, il le transmet à la justice, mais ici, l'IGF a fait le rapport sur la gestion de mandataire, il a remis au gouvernement. Ça dit que tout le rapport de l'IGF, n'oublie pas que l'IGF est un service spécialisé de la présidence de la République. Cela veut dire la première institution concernée par le rapport de l'IGF, c'est la présidence. Et c'est ainsi que la présidence demande les mesures conservatoires et la question de la justice intervient. Mais exactement, c'est comme ça que ça s'est fait parce que l'IGF, c'est un service spécialisé de la présidence de la République. Alors, mais vous souhaitez quand même que la justice puisse se saisir de dossiers et ça, ça s'est fait comme ça et nous espérons que ça va aller. Mais parce que là, on est bousculé par les temps. On a que peut-être 45 secondes de dommage, Kalo, pour donner aussi à Junior qui est à Kisangani et permettre à notre invité de pouvoir conclure cet échange. Junior, vous êtes avec nous rapidement. Bonjour. Junior, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, en fait, on vous écoute rapidement dans 30 secondes, hein, votre point de vue par rapport à cette question et on va revenir à notre invité pour la conclusion.
Ici, ce n'est pas Junior, c'est Jaliki.
Ah voilà, ça veut dire qu'on a eu des petits soucis, mais ça nous permet d'ailleurs directement d'accorder la parole. Excusez-nous Jean-Luc, hein, je crois qu'on a eu des petites confusions sur notre standard. Alors on revient à vous directement, monsieur Singh Poulou, parce qu'on doit conclure cet échange. Vous avez suivi les uns et les autres, hein. Il y a Kalo qui revient par exemple sur la question de la justice. On espère que non seulement on pourra prendre des mesures conservatoires, mais la justice peut aller jusqu'au bout pour que les autres mandataires puissent quand même ne pas refaire les mêmes choses. On vous écoute pour conclure cet échange.
Merci beaucoup. Il faut que les intervenants comprennent comment ça fonctionne. Hein. L'IGF, c'est un service de l'État sous la présidence. Quand il fait son travail, il y rend compte à la présidence. Comme il s'agit des entreprises publiques, qui nomme les mandataires? C'est le président de la République qui nomme les mandataires. Sur décision et délibération en Conseil des ministres. Ce qui veut dire que le président de la République est au courant du travail fait par l'IGF. Il dit, il informe le gouvernement. Le membre du gouvernement, le chef du gouvernement, le premier ministre, que nous voilà les rapports que j'ai pour éviter qu'il y ait péril en des mers. Prenez des dispositions pour ne pas les permettre de fuir, ne pas les permettre de continuer à dilapider l'argent de la République, et la justice va faire son travail. La justice, il suffit seulement qu'ils soient au courant qu'il y a tel incident là-bas. Les procureurs, les ministères publics, son rôle, c'est quoi? Même par Rimer, il viendra vous arrêter, puisqu'il s'agit de la République. La justice fera son travail. Ne faites pas une justice ne donnez pas l'accès à la justice un peu mal contrôlée. La justice mûrit d'abord les faits avant de passer à l'action.
Voilà. Et rapidement, donc, votre mot de conclusion.
Je demande à toute la population, à tout le monde, d'assister le chef de l'État. La vision est claire, j'insiste. La vision du chef d'État est claire. Vous qui êtes ministre, mandataire de l'État, premier ministre, qui que ce soit, la vision est claire. L'état des droits signifie sanction. La justice au-dessus de tout le monde. Et le peuple d'abord signifie les sociales. Les sociales. Donc, vivez de votre salaire.
Merci.
Et respectez les biens de l'État.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cet échange, Monsieur Nsingi Poululu. Je rappelle que vous êtes député national élu de Kinshasa. Merci aux auditeurs, vous avez été nombreux. Nous poursuivons le débat sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Mais cette émission, vous pouvez la réécouter sur www.radiocapi.net. Et on se retrouve demain pour un autre numéro des Paroles aux Auditeurs. Au revoir.